Bonjour. Aux revendications sur le pouvoir d'achat, s'est immédiatement accolée dans le mouvement des Gilets jaunes l'expression d'une haine implacable, sans mélange, à l'égard de la personne d'Emmanuel Macron. Alors son projet, sa politique, ses provocations verbales, comment expliquer le caractère personnel de cette détestation ? Hasard des choses, quelques jours avant le début du mouvement, était publié un pamphlet, le Code Jupiter, tentative audacieuse d'analyser le cas Macron à travers son projet secret et son maître à penser méconnu. Alors, ce Code Jupiter, c'est vous qui en êtes l'auteur, Dany Robert Dufour. Vous serez l'invité unique de cette émission, vous êtes philosophe. Mais ce livre, le Code Jupiter, n'est pas signé de vous, il est signé d'Emostène. Ce qui m'amène évidemment, avant de commencer la discussion, deux questions. Pourquoi avoir choisi d'écrire sous pseudo ? Et évidemment, deuxième question, pourquoi renoncer à votre pseudo quelques semaines après la sortie du livre ?
Bien sûr, oui. Bon, écoutez, Démosthène, c'est un orateur de l'Antiquité, grec, 4e siècle avant notre ère. C'est un personnage philosophique extrêmement important parce que il est celui qui, dans la République athénienne, a dénoncé ce qu'on appelle l'hubris, la démesure. Cette démesure peut être la démesure, donc, par exemple, de Philippe II de Macédoine, qui avait des visées sur les autres cités grecques, donc il veut tout, quoi, il voulait tout. Ou ça pouvait être aussi la démesure des citoyens grecs, qui, donc, dans leur arrogance, pensaient que parce qu'ils étaient riches, ils avaient tous les droits. Et donc, Démosthène est celui qui a dénoncé l'hubris, la démesure. Et j'ai pensé que, comme par hasard, imaginez pourquoi, il était important de ressusciter à notre époque, à l'époque de notre cher président, donc ce Démosthène, et de faire un Démosthène 2.0 pour interroger l'hubris. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à avoir pensé à cette question de l'hubris, puisqu'un dénommé Gérard Collomb, au moment où il a démissionné, a mentionné justement l'hubris qui était en train de saisir le pouvoir. Donc comme je terminais ce livre à ce moment-là, je me suis senti en quelque sorte en phase avec donc Démosthène et Gérard Collomb, qui est, comme vous le savez, un agrégé de lettres classiques et qui savait de quoi il parle quand il parlait de la démesure
président. Je ne savais pas où je l'avais oublié, mais je l'apprends. Et alors donc, deuxième question, normalement quand on écrit un livre sous pseudo, on essaye de maintenir le mystère quelques semaines, quelques mois, voire pour toujours. Si on y arrive. Bon. Alors pourquoi pas vous ?
Pourquoi pas moi ? Parce que j'étais rattrapé par les événements. Les événements vont extrêmement vite. J'ai sorti ce livre une semaine donc avant la première manifestation des Gilets jaunes. J'annonçais dans ce livre, page 2 ou 3, la possibilité de jacquerie, la possibilité de survenue d'émeutes, que l'aventure Macron tourne court comme l'aventure Boulanger en 1790 avait tourné court au bout de 2 ans.
Enfin, le général Boulanger donc, qui avait tenté un putsch contre la République, on n'est pas exactement dans le même cas de figure non plus.
Pas tout à fait dans le même cas de figure, mais bon, c'était un personnage qui était devenu extrêmement important et d'un seul coup, bon, tout s'est arrêté. Bon, et donc...
C'est les Gilets jaunes, quoi, qui vous décident à balancer votre pseudo.
Oui, exactement, parce que, donc, ils révèlent quelque chose ils ont compris quelque chose, en même temps que moi, j'allais dire, moi avec mes moyens philosophiques et eux avec leurs moyens, qui sont les moyens d'un peuple qui se met en route, qui se met à penser, etc., et qui découvre donc, là aussi, l'hubris de leurs dirigeants, qui prend différentes formes. D'abord, une stigmatisation de ceux qui n'y arrivent pas, permanente, régulière, tout au long du règne Macron depuis le début, et ceux qui n'y arrivent pas sont stigmatisés. Bon, c'est ces ouvriers illettrés, c'est les cyniques, c'est les extrêmes, c'est ceux qui ne sont rien, etc., toute cette série de formules. Et puis c'est aussi ce peuple qui découvre l'extraordinaire arrogance de celui qui se présente comme « je suis l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque ». C'est dans l'interview à la vénérable revue française, en mai, il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois. Donc, à 6 mois, il y a 6 mois, il en était là. Il en était à penser qu'il était l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Et maintenant, il découvre qu'il est l'émanation du dégoût du peuple français pour l'inégalité. Voilà.
Vous allez nous dire que vous aviez prévu les Gilets jaunes ?
Pardon ?
Vous aviez prévu les Gilets jaunes. Vous dites que dès la page 2 ou 3, vous faites une allusion au Jacquerie, mais franchement, oui. Vous aviez prévu ce qui se passe
cette
depuis...
Cette forme-là, exactement, non. Mais je sais, parce que j'ai quand même quelques informations, quelques sources, quelques contacts, j'ai mes informateurs. Je dis que je fais un travail d'ethnologie dans une tribu, qui est la tribu des Jupitériens, qui a pris le contrôle de la République française. Donc, comme tout ethnologue qui pénètre une tribu, j'ai mes informateurs dans cette tribu. Et je sais bien que leur hantise, c'était que chaque réforme qu'ils font passer à coup de force, comme celle de la SNCF, comme les autres qui sont prévues, comme la réforme des retraites, comme donc ce qui va toucher les fonctionnaires, il y a quantité de réformes, parce que tout n'est pas dit, il y en a beaucoup encore à venir.
Enfin, il y avait beaucoup à venir.
Mais toutes celles qui étaient prévues, donc ils avaient une peur, c'était que ça crée un mécontentement et que ce mécontentement coagule. Or voilà que ça arrive. Donc ça arrive, je dirais, une semaine. Je ne suis pas l'inspirateur des Gilets jaunes, vous le pensez bien. Mais bon, ils avaient peur que ce mouvement coagule, et ça a coagulé.
Alors, on va revenir sur tous ces points en détail, mais d'abord, il faut éclairer quand même, pour que nos spectateurs sachent bien d'où vous parlez et qui vous êtes, il faut essayer d'éclairer votre propre position dans le champ intellectuel et dans le champ social. La première phrase de votre livre, « De moi, je ne dirai rien », sinon que je suis bien introduit dans les différents cycles de la Macronie.
Cercle.
Mm. Alors, évidemment, c'est une première phrase très alléchante. On se dit, voilà, c'est un insider qui va parler.
Oui,
Il dîne chaque semaine avec les collaborateurs de Macron. Alors, c'est votre cas ?
J'ai mes informateurs, je peux pas en dire plus, puisque, vous pensez bien que, comme les journalistes, vous avez vos sources, et vous ne mettez pas vos sources sur la table. Moi, j'ai mes contacts. Il faut croire que j'étais bien renseigné, puisque j'étais capable, donc, de construire ce portrait.
Ah bah oui, mais alors, attention, parce que si vous dites que vos informations sur le mouvement social venaient de l'intérieur de la Macronie, ça pourrait laisser à penser qu'eux-mêmes avaient prévu ce qui se passe aujourd'hui.
Je vous ai dit, ils avaient peur que chacune de leurs réformes entraîne donc des révoltes et que ces révoltes coagulent, que ça touche un secteur. Ça n'a pas marché avec la SNCF, ça n'a pas coagulé. Mais là, d'une façon fortuite, à propos de l'augmentation des taxes donc sur le carbone, ça a coagulé, ça a pris chez le peuple et ça commence à coaguler d'une façon... extrêmement...
assez coagulante.
Absolument, tout est en train de se figer. C'est-à-dire que maintenant, les lycéens, je crois qu'il y a eu 300, 400 ou 600 lycéens arrêtés hier, on annonce les routiers pour lundi, les agriculteurs commencent à bouger. C'était ça, la peur immense qu'ils avaient. Et ben voilà, nous y sommes.
Alors, on va venir sur le fond de votre livre. Juste un mot encore sur ce genre du pamphlet masqué, qui est un genre français... traditionnel, vous avez des prédécesseurs. Vous avez notamment un prédécesseur dans les années 80, il s'appelait Caton.
Oui, Caton, Berkoff.
Vous me cassez mes effets, là. Dans le Caton qui avait publié, alors, on voit surgir un bouquin signé Caton, il s'appelle De la reconquête, pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. C'est prétendument... écrit par donc un responsable de droite, écrivant donc prétendument une sorte de bréviaire sur la manière de se débarrasser de la gauche. On était en 83, donc Mitterrand était là depuis deux ans. Alors tous les médias ont marché, tous les médias ont interrogé Caton d'une manière anonyme, alors y compris en 1983, France Inter, et on va écouter l'interview.
Un autre livre vient de sortir, signé d'un pseudonyme. Il s'agit de La Reconquête chez Fayard, un livre signé Caton. Caton est quelque part au téléphone en France. Caton, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
Bien. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme de Caton ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des vérités à dire et que ces vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde. Et qu'à partir de là, j'ai voulu dire la vérité à mes amis d'abord. Et la vérité aux Français, la vérité c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français, démobilise nos amis. C'est la première vérité. Ce n'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche.
Voilà, bon, vous avez reconnu la voix ?
Bah, évidemment, c'est Hollande.
Voilà, c'est François Hollande qui avait prêté sa voix à la supercherie. Et le libelle lui-même avait été écrit, donc, par André Bercoff.
C'est ça, par Bercoff, voilà. Oui. Mais je crois même que ce libelle avait été demandé par Attali.
C'est ce qu'on a dit à l'époque, voilà, qui était le conseiller spécial de Mitterrand.
De Mitterrand, voilà. Et qui est devenu le mentor de M. Macron.
Oui.
Voilà, qui a protégé donc ses débuts, son envol en politique.
Voilà, comme quoi,
donc, vous voyez, ce genre est légitime, puisque...
vous avez un prédécesseur fameux.
Exactement. Alors, je me permets simplement de vous dire qu'il y en a un autre qui a écrit en 1975 ou 1976... un livre qui s'appelle « Véridique rapport sur les dernières chances de sauver le capitalisme en Italie », qui avait pris comme nom « Sansor ». Et Sansor se présentait comme un dirigeant de la droite italienne, de la démocratie chrétienne italienne, qui disait « il n'y a plus qu'une seule chance pour sauver le capitalisme en Italie, c'est d'associer les communistes ». Les communistes à la gestion du capitalisme. Et donc c'était un situationniste, c'est-à-dire c'est la gauche, ultra-gauche même, qui donc prêtait sa voix à un supposé dirigeant de la droite pour donc entériner cette stratégie qui a finalement fonctionné. Et même en France, puisque après la gauche a intégré donc les communistes dans le gouvernement.
Absolument. Alors, pour en venir maintenant au fond et pour essayer d'entrer dans le cas Macron, je disais au début de l'émission, ce qui frappe depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est la dimension personnelle de la détestation de Macron. Ça, c'est peut-être l'élément le plus, on va dire, un des éléments les plus spectaculaires. Je voudrais qu'on envoie 2 échantillons en images qui sont les vidéos de 2 visites de terrain qu'a fait Emmanuel Macron cette semaine après... ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe samedi dernier, donc dans le quartier de l'Arc de Triomphe d'abord, et ensuite au Puy-en-Velay, où une partie de la préfecture a été incendiée. Connard, démission,
oui.
Une explication ?
Bah oui, une explication, c'est que quand vous stigmatisez, blâmez, jetez l'opprobre sur ceux qui n'y arrivent pas, comme donc ça s'est passé depuis le début de ce quinquennat, avec toute une série, d'une façon régulière, hein, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on avait la phrase de stigmatisation de ces gens, illettrés, cyniques, extrémistes, ceux qui ne peuvent pas se payer de costard, ceux qui ne sont rien, ces pauvres qui coûtent un pognon de dingue, etc. etc. Ben, y a un moment donné où ces stigmatisations se traduisent par un sentiment d'injustice totale et par un sentiment de revanche. Par exemple, ce que l'ami Démosthène dans l'Antiquité disait, je l'ai placé en exergue, « Car ce n'est point le coup, c'est l'affront qui révolte, l'outrage que la victime même serait souvent incapable de nommer, ce peut être l'attitude, le regard, la voix. » Eh bien, ces gens se sont sentis outragés et injustement outragés. Quand on outrage quelqu'un qui est coupable, bon, le coupable peut donc se rendre compte de ce qu'il a fait. Mais quand on outrage des gens qui ne sont pas coupables, sauf celui d'être pauvre, et qui coûte donc un pognon de dingue, eh bien, il y a un sentiment de révolte qui prend des proportions extrêmement fortes, y compris violentes. Bon. Et donc, je crois qu'il n'a pas su manier donc, cette stigmatisation, tout simplement parce qu'il y a un usage de la stigmatisation qui permet, en regard, de créer une classe, une grande classe, qui se pense être vertueuse. Lui, il a stigmatisé de façon beaucoup trop large, et il a donné donc une sorte de label vertueux aux autres, c'est-à-dire à ceux qu'il appelait justement les premiers de cordée, qui avaient le courage, alors, selon lui, de tirer tous les
je ne comprends pas bien. Il y a un usage vertueux de la stigmatisation.
Il y a un usage... Non, ce n'est pas un usage vertueux de la stigmatisation. Il y a un usage de la flatterie...
De la flatterie.
De la flatterie, qui permet donc de créer une grande classe soi-disant vertueuse, et donc qui permet de tenir le social d'une façon relativement tranquille, parce que vous distribuez vos flatteries et vous stigmatisez un petit groupe. Mais au lieu de stigmatiser un petit groupe de dangereux, par exemple, lui a stigmatisé le grand groupe, le peuple français. Et le peuple français est en train de lui répondre.
Alors, on va revenir effectivement sur cette théorie de la flatterie et de la stigmatisation. Je pense que c'est un des aspects les plus intéressants de votre livre. Mais je voudrais le prendre dans l'ordre, oui. Votre livre, puisque votre livre, il commence par retracer tout le parcours d'Emmanuel Macron, son milieu social, ses oui. études, etc. Et évidemment, étape importante, son passage à la Banque Rothschild. Alors, on va en parler. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute l'extrait d'une émission dans laquelle témoignait le directeur de la Banque Rothschild qui l'a embauché, François Enrault. Donc, c'était passé sur France 3 en 2016 et le documentaire s'appelait « La stratégie du météore ».
On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté et je dirais cet entretien pour moi a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque... Il devait avoir très peu d'années après 30 ans. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires, mais aussi une patte humaine, des qualités de caractère, des qualités relationnelles, qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare.
Tout ça en 2 heures ?
Oui. À la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison.
Mais ça, c'est très étonnant, non, de dire ça à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 heures dans la banque d'affaires.
Ah oui, oui, ça m'est jamais arrivé avant et jamais après. Jamais.
En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique?
On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va... donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu.
Voilà. Chez Rothschild, il s'occupait, comme c'est la spécialité maison, de fusion-acquisition. D'ailleurs, j'ai appris dans votre livre qu'on dit FUSAC. Quand on connaît ces choses, on parle de FUSAC. En quoi c'est important qu'il soit passé par la banque Rothschild et qu'il se soit occupé de FUSAC?
Écoutez, monsieur Enrault l'explique très bien. C'est que, cette émission s'appelle Arrêt sur image, mais là, c'est intéressant de faire un arrêt sur les mots. Sur les mots de... Donc, celui qui était son patron à la banque Rothschild et compagnie. C'est-à-dire que dans ce rôle de Fussac, où il est fait associé, c'est-à-dire partie prenante de la direction de la banque, il apprend à, littéralement, il le dit lui-même, à raconter des...
À... Il bute sur le mot, d'ailleurs.
Hein. Voilà, il bute. Mais justement, c'est arrêt sur le mot. Hein. À raconter des histoires. C'est-à-dire à monter des coups, à monter des histoires, avec une histoire donc, qui va être crédible, même si on n'y croit pas du tout. Il s'agit de présenter une histoire qui va être crédible pour les actionnaires, pour qu'ils achètent ou pour qu'ils vendent ce qui leur appartient. Et donc, ce que dit Henrot, M. Henrot, c'est qu'il avait une capacité extraordinaire, justement, à monter ces histoires. Je ne dirais pas de manipuler, je cite, mais quand même. Il y a une capacité à manipuler. Ce qui a été confirmé par un autre mentor d'Emmanuel Macron, Alain Minc, qui dit que dans ce domaine, il n'est pas tombé de la dernière pluie, n'est-ce pas, Alain Minc, dans ce domaine. Et il dit qu'il a merveilleusement réussi dans ce domaine, celui des fusions-acquisitions, en justement montant d'une façon impromptue, rapide, extraordinairement rapide, des histoires pour emporter le morceau.
D'ailleurs, une des légendes de Macron à la Banque Rothschild, c'est qu'il n'avait pas son pareil, si vous voulez, pour embobiner les vieux messieurs.
Oui,
c'est ce qu'on a dit.
Oui.
Les embobiner par la flatterie.
Exactement. Exactement. Capacité d'embobiner, de monter des histoires sur le coup, sur le champ, pour emporter la mise, rapporter le coup. C'est que vous faites un coup et vous avez donc... C'est le bluff, quoi. C'est ce qu'on... Le poker, etc. Tous ces jeux où le bluff joue un rôle considérable. Et bien dans la finance, qui est aussi une finance casino, et bien le bluff joue et il est joué. Donc il avait des capacités extraordinaires. Et Alain Minc, pour revenir à lui, disait que dans ce domaine, il avait des qualités extraordinaires. Pourquoi, dit-il? Si vous avez le présenter, je vous laisse le présenter, parce que là, on a un moment extraordinaire.
Non, on n'a pas d'extrait, mais voilà, Alain Minc, donc, homme d'affaires et auteur français, on va conseiller plusieurs présidents de la République dans le passé, dont notamment dont essentiellement Nicolas Sarkozy. Voilà.
Et donc, Alain Minc dit à propos de Macron. Dans son métier de Fussac, c'est-à-dire sa capacité à séduire, à trancher, à faire le coup gagnant, la mise gagnante, dit « bon, il avait toutes les qualités, parce qu'il savait séduire ». Bon, et il dit en aparté « vous savez, c'est un métier de pute hein. ». Je cite, c'est pas moi qui dis ça, c'est Alain Minc qui dit ça. C'est un métier de pute. Et quand Macron a été interrogé par le Wall Street Journal à New York, donc... Et quand on lui a demandé « qu'est-ce que c'est votre métier dans la haute finance française ?», il a répondu « c'est un peu comme un métier de prostituée, vous savez. Bon, il faut séduire et puis il faut gagner. » Et ben voilà, séduire et gagner. Et donc, c'est des qualités qu'il a acquises à la banque Rothschild et qu'il a su transférer avec un brio certain dans le domaine de la politique. Sinon, il n'aurait pas gagné l'élection présidentielle de l'an dernier.
Alors, vous avez parlé d'une interview au Wall Street Journal. Ce qui pose une question, et qui va être une question importante que soulève votre livre, c'est est-ce que Macron dit la même chose à l'étranger que ce qu'il dit en France? Est-ce qu'il revient à se demander si il a joué totalement carte sur table pendant la présidentielle ou s'il y a des choses qui ont été cachées au public français? Donc, on va vous poser la question. J'aimerais qu'on continue à dérouler, donc vous déroulez, vous racontez, enfin Démosthène. Je ne sais pas d'ailleurs si je parle, enfin je veux dire, vous assumez Démosthène complètement.
C'est un personnage philosophique que j'ai créé, et donc je pensais, je vous expliquais pourquoi il était absolument opportun.
Vous assumez ce qui est écrit là-dedans.
Bah, bien sûr,
voilà,
évidemment.
Vous n'allez pas vous planquer derrière Démosthène et dire non, c'est pas moi, c'est Démosthène.
Non. Je peux dire Démosthène, c'est moi.
Démosthène, c'est vous, ça marche. Très bien.
C'est pour que Démosthène 2.0.
C'est pour que le pacte d'interview soit parfaitement clair. Donc vous écrivez, donc la manière dont Macron se débarrasse de ses concurrents pendant la présidentielle, d'abord pendant la primaire, la manière dont il se débarrasse des modérés qui auraient pu lui faire de l'ombre à son électorat, comme Juppé ou Benoît Hamon, pour se retrouver dans la position la plus confortable pour lui, c'est-à-dire entre Le Pen et Mélenchon. Voilà, alors tout ça est assez convaincant. Alors là où je suis un peu moins convaincu, si vous voulez, c'est quand vous racontez la manière dont il se débarrasse de Fillon. Alors, je ne sais pas si je vous ai bien lu, mais on a l'impression que toute l'affaire Fillon, l'affaire Pénélope, etc., a été un coup monté par Macron, qui, de manière géniale, s'est procuré des documents qui mouillaient Fillon et les a filés au canard enchaîné.
Écoutez, il y a des Macron boys qui restaient à l'époque de la présidence Hollande. Il aurait été bête de ne pas les utiliser pour faire remonter un certain nombre de dossiers du ministère des Finances. Je n'ai pas de preuves là-dessus.
Et d'ailleurs, l'intelligence... Il n'y a pas de preuves.
Ah ben non, mais attention. L'intelligence... Ah ben non. Attendez, ces gens-là sont quand même suffisamment intelligents pour ne laisser aucune preuve du coup qu'ils montent. Donc après, ils peuvent très bien me dire ah, « c'est un bobard que vous racontez ». Bien sûr, c'est un bobard qu'on raconte, mais comme ils ont fait disparaître les preuves, le fait de parler de ceci d'une façon ou d'une autre va être un bobard, puisqu'on n'a plus aucune preuve.
Ouais.
Donc la supposition que moi je fais, d'après ce que j'ai entendu et perçu, c'est qu'effectivement, ça s'est monté comme ça.
Alors vous savez que le canard enchaîné a totalement démenti. Le canard enchaîné, ils ont dit « nous, on a fait notre enquête, personne n'est venu nous la porter sur un plateau ». Je voudrais juste qu'on écoute comment une des journalistes du canard, Isabelle Barré, le racontait à France Info.
Ça commence avec la victoire aux primaires, au premier tour. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on fait avec tous les candidats à la présidentielle. On commence à enquêter, à reprendre de zéro tout ce qu'on sait de ce personnage. Ce qui a attiré notre attention très vite, c'est l'emploi de Madame Fillon à la revue des Deux Mondes. On la croyait mère au foyer. On découvre qu'elle est employée par un milliardaire ami de Monsieur Fillon. On est content d'avoir fait notre travail. On sait qu'on l'a bien fait. On sait qu'il n'y a pas eu de main qui guidait de force obscure. S'il n'y avait pas eu la création de la Haute Autorité pour la transparence suite à l'affaire Cahuzac, cette déclaration n'aurait pas existé. Et sans cette déclaration, on n'aurait jamais eu le premier indice. On aurait très bien pu aussi passer totalement à côté de ce scoop.
Elle ne vous convainc pas.
Écoutez, je trouve tout à fait normal et presque même légitime que le canard enchaîné ne veuille pas dévoiler ce qui s'est passé, parce que s'il le dévoilait, il paraîtrait comme ayant été eux-mêmes manipulés directement par Macron. Et donc, ça ne ferait pas une bonne publicité au canard enchaîné.
Mais vous n'y croyez pas ?
Je n'y crois pas. Non, c'est une affaire qui a été montée. C'est pas le canard qui a monté cette affaire. Je ne le pense pas. C'est quelque chose...
De la manière dont il le raconte, en tout cas, c'est vraisemblable.
Mais justement, tout le problème est là. C'est comme on n'a plus de preuves, tout est vraisemblable. Comment est remontée, par exemple, toutes les informations financières sur Pénélope, attachée parlementaire, ses enfants, etc. C'est parce qu'il y avait des éléments qui étaient au ministère des Finances. Bon, c'est pas le canard enchaîné qui a accès au canard des...
Pas seulement, il y avait aussi des éléments qui étaient à l'Assemblée.
Exactement. Bon, et donc, la grande difficulté, c'est qu'on n'aura jamais de preuves là-dedans.
Voilà.
Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, quelqu'un se mettra à parler en disant « Bon, maintenant, il y a prescription, je vais réexpliquer ce qui s'est passé. » Mais ma conviction, moi, c'est que ça a été un coup monté avec un brio extraordinaire pour reconnaître l'habileté... Et M. Henrot avait raison, l'habileté de notre candidat quand cette affaire a été montée. Donc ça a marché parfaitement.
Mais encore une fois, soyons parfaitement clairs, il s'agit de votre part d'une hypothèse.
Oui.
Voilà.
Oui, bien sûr. Il s'agit d'une hypothèse contre d'autres hypothèses qui n'ont pas plus de preuves que les miennes. Et comme cette hypothèse, justement, explique beaucoup de choses dans la réussite et l'ascension, j'ai quand même un sentiment qu'elle est solide.
Alors, venons-en à la campagne maintenant. Donc, il est candidat. Et alors, ce que vous dites, une des thèses de votre livre, c'est qu'il n'a pas joué carte sur table pendant la campagne, c'est-à-dire qu'il a dissimulé une espèce de projet qu'on pourrait qualifier de mise en concurrence générale de tout le monde avec tout le monde, y compris dans le domaine des entreprises, bien sûr, mais aussi, dites-vous, de mise en concurrence des collectivités locales, les unes par rapport aux autres, des mairies par rapport aux départements, par rapport aux régions, des régions entre elles, une espèce de grand projet de mise en concurrence générale. Alors, c'est évidemment intéressant, mais c'est réfutable. On pourrait vous objecter qu'il avait quand même dit des choses dans sa campagne, et qu'on pouvait quand même cerner le bonhomme et cerner sa, on va dire, sa philosophie générale. Alors, à la fois dans ses déclarations de campagne et en même temps dans la politique qu'il avait menée comme ministre de l'économie dans les années précédentes. Je voudrais qu'on écoute un extrait de sa conférence de presse présentant son projet de mise en concurrence des bus et du notariat.
Oui.
Je voudrais articuler autour de trois axes ces mesures que je vais aujourd'hui essayer de vous présenter et qui illustrent, en tout cas, structure cette philosophie. Libérer, investir et travailler. Libérer parce que d'abord, nous avons besoin d'ouvrir certains secteurs, d'ouvrir certaines professions, de faciliter les accès, comme je le disais, à ceux qui n'y ont pas, aux plus jeunes, aux plus démunis, à ceux qui voudraient faire plus, aller plus loin, bouger. Ouvrir les autocars, ça ne veut pas dire la mort du train. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner le train. Pour qui cette réforme est-elle bonne ? Elle est bonne pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Donc quand on me dit « les pauvres voyageront en autocar », j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Ouvrir ces professions, en particulier, les ouvrir aux jeunes. Parce que les jeunes professionnels, dans le notariat par exemple, mais dans d'autres professions réglementées du droit, n'ont pas accès assez vite aux responsabilités, n'ont pas accès assez vite à l'office notarial.
Alors, voilà quelle était la tonalité un peu de Macron, à la fois ministre et de Macron en campagne. Alors, qu'est-ce qui était caché, en fait ? Qu'est-ce qu'il a caché ?
Écoutez, je reprends son expression, ouvrir les autocars. Bon, ouvrons les autocars. Mais ce n'est pas seulement les autocars qu'il faut ouvrir. C'est l'ensemble des secteurs où fonctionnait encore en France, et ce, depuis la libération, donc ce qu'on appelle des services publics qui existent dans tous les grands domaines et qui constituent donc ce qu'on appelle depuis très longtemps le fameux modèle français. Je crois que sa visée, justement, c'était de casser ce modèle français pour ouvrir tous les secteurs à la concurrence privée. C'est un homme qui vient de la banque, on va associer de la première banque d'affaires française, et donc qui continue sur sa lancée en disant « les banques sauront beaucoup mieux gérer tous ces lieux d'activité économique et sociale que le public ». Donc il faut en finir avec le public, avec même l'idée du bien public, et remplacer ceci par l'initiative individuelle qui va rencontrer d'autres initiatives individuelles, qui va se heurter à d'autres initiatives individuelles, de façon à ce que le meilleur gagne dans cette compétition généralisée, et ceci dans tous les secteurs.
– En finir avec le public et même l'idée du bien public.
– Et même l'idée du bien public. –
Avez-vous dit ?–
Même l'idée du bien public. –
Donc vous pensez que dans son esprit c'est la même chose, le public et l'idée du bien… Le secteur oui. public économique et l'idée du bien public,
bien
vous pensez
sûr.
Que dans son esprit
l'idée
c'est la même chose ?–
L'idée du bien public, c'est terminé. Écoutez ceci, c'était encore à la NRF, donc après qu'il ait dit qu'il était l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque… Il ajoute qu'il allait faire entrer ce vieux pays de petits bourgeois à l'abri dans le confort matériel, dans une nouvelle aventure où le tragique allait s'inviter. Ce qui peut s'entendre comme ces petits bourgeois donc bien protégés, parce qu'ils sont dans la protection sociale que leur offrent tous ces services publics. C'est ça qu'il faut casser. Et le tragique, ça va être, eh bien maintenant, si vous avez des qualités, si vous en avez... Si vous avez des qualités, faites-les voir, montez votre start-up, que votre start-up entre en concurrence avec d'autres start-up et on verra lequel gagne. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien écoutez, c'est votre sort normal, de ceux qui n'auront pas mérité donc de s'enrichir. C'est le déclassement, c'est la paupérisation.
Qu'est-ce que vous pensez des motifs qu'il allègue dans les deux cas, à la fois pour les autocars et pour les notaires? Pour les autocars, il dit c'est pour mettre le voyage à la portée de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des billets de train. Et sur le notariat, il dit c'est pour permettre à des plus jeunes d'entrer dans la carrière. C'est vrai que le notariat, pour le coup, est une profession très, très fermée dans laquelle il est très difficile d'entrer.
Oui, mais ça, c'est l'argument général. Quand on veut privatiser tous ces secteurs et tous ces lieux, tous ces lieux gérés par le public ne sont pas performants et qu'on va mettre quelque chose de performant qui va permettre à ceux qui veulent, à ceux qui en veulent, de réussir, alors qu'ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont exclus de ceci. Eh bien, s'ils en veulent, ils vont réussir. Mais oui, mais ceux qui ne peuvent pas réussir, ceux qui sont déjà sur le bord de la route, ceux qui sont déjà abandonnés, seront encore plus abandonnés. Et c'est pour ça qu'en même temps, pour reprendre son fameux syntagme du « en même temps », donc, il stigmatise ceux qui ne sont rien et qui resteront rien. Peut-être moins que rien.
– En même temps, j'ai envie de vous dire, bon, sur l'écart, par exemple, le bilan est mitigé, certes. Oui. Il y a des compagnies, les tarifs ont un peu augmenté depuis que la réforme a été introduite. Il y a une compagnie qui s'est retirée. Oui. En même temps, c'est vrai que un pari, je ne sais pas, au hasard, un pari Tours qui coûte 60 euros en TGV coûte 15 euros dans un bus.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est absolument vrai. Mais en même temps, cela allait affaiblir justement un autre secteur, qui était le service public de la SNCF, et qui était capable, qui avait déjà commencé d'ailleurs à mettre en place, lui aussi, ses réseaux d'autobus. Mais là, c'est un secteur que l'on commence à casser, celui des transports, et ça devient le modèle général pour donc transformer les services publics et donc les ouvrir à cette concurrence généralisée où les gens sont priés de faire leurs preuves.
Donc, si vous faites... Non, mais là, vous parlez du point de vue des entrepreneurs, mais du point de vue des usagers, je veux dire, c'est vrai que les voyages ont été mis à la portée de gens qui n'avaient pas forcément les moyens de voyager avant.
Oui, peut-être, mais il y avait d'autres moyens aussi. Regardez, par exemple, les Blablacar, toute une formule d'association, etc. Il aurait pu aussi bien développer tout ceci. Et en plus, s'il avait développé tout ceci, il aurait satisfait à une contrainte écologique qui existait déjà à cette époque, parce que les bus, c'est extrêmement polluant par rapport à la SNCF. Et là, il aurait utilisé le parc automobile existant sans polluer davantage avec les autobus pour pouvoir développer des pratiques qui étaient déjà des pratiques de collaboration.
Alors, selon vous, Emmanuel Macron n'avait pas seulement un objectif global dissimulé au moment de sa campagne, il avait aussi un maître à penser dissimulé. Et alors là, entrée en scène de Bernard Mandeville.
Bernard de Mandeville.
Alors, c'est de Mandeville ?
Bernard de Mandeville.
De Mandeville. Oui, oui, oui. Alors, présentez-nous Bernard de Mandeville, dont j'ai découvert l'existence en lisant votre livre.
Ah ben, je suis content au moins parce que si vous avez découvert son existence, vous avez découvert un maître à penser de la mouvance libérale, néolibérale, ultralibérale, ordolibérale, de toute la mouvance donc néolibérale, à tel point que Bernard de Mandeville était présenté comme un mastermind, c'est-à-dire un maître à penser, par le chef de l'éfide de l'école de Chicago, Friedrich Hayek. Et bon, Bernard de Mandeville.
Alors déjà l'époque. Bon, on a une petite. Alors ça c'est Hayek. Alors on revient à Mandeville. On a une petite idée de l'époque en voyant son portrait.
1770-1733.
Il écrit au début du 18e. Il écrit avant que commencent à écrire les philosophes des Lumières.
Exactement. Voilà. Juste avant. Juste avant. Alors ce qui est extrêmement intéressant à propos de Bernard de Mandeville, c'est que il a une formation à la fois de philosophe et il est médecin de l'âme, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire médecin des passions.
Il est psy.
Et il était, comme il est parti à Londres, de l'Angleterre, des provinces unies, c'est-à-dire de la Hollande à Londres, il s'est installé comme, c'est le docteur Lacan de Londres en 1700. Quoi.
Alors, en quoi il est important ? Quelle est sa contribution à la théorie du libéralisme, de l'ordolibéralisme, de l'ultralibéralisme ?
Il est très, très important parce qu'il se situe donc à une époque charnière, qui est la première révolution industrielle anglaise qui a vu la naissance du capitalisme. Et il voit comment les choses se nouent. Les choses, c'est quoi? C'est ce qui est, puisque c'est un psy, de l'économie psychique, comme on dit, des passions, et de l'autre côté, de l'économie marchande, c'est-à-dire les flux marchands. Et il boute les deux, il réussit à joindre les deux, Et donc son premier texte extrêmement fameux, qui lui vaudra d'ailleurs des poursuites et bon, en Angleterre, dans toute l'Europe, etc., s'appelle « La fable des abeilles », qu'il a écrite sur « Fable of Bees », qu'il a écrite sur le modèle des fables de La Fontaine, normal, puisqu'il est le traducteur en Angleterre. Il y a quelque chose il y a encore un peu de français dans son nom, ça se voit bien. Il dit encore le français. Et il traduit donc les fables de La Fontaine en Angleterre. Il introduit 29, si mes souvenirs sont exacts. Et il est publié vers 1705.
Alors, la fable des abeilles, allez-y.
Alors, il a pris le tour de main de La Fontaine, et donc il se prend à écrire une fable. Et la fable des abeilles, ça raconte l'histoire d'une ruche. D'une ruche qui est riche, ruche riche. Pourquoi ? Parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Par exemple, quand vous voulez arranger une affaire de justice, vous allez voir le juge et vous aider à ce que votre affaire se résolve un peu mieux.
Vous lui
graissez la patte. Il prend une commission. Du coup, le juge, prend une commission, deux commissions, 10, 50 commissions, et le juge devient riche. Et le juge, parce qu'il est riche, va évidemment utiliser son argent. Il ne va pas le mettre sous son oreiller pour se donner une belle demeure. Et donc, il va faire venir un architecte pour lui construire une belle maison, des décorateurs d'intérieur, des tapisseries, des meubles, un équipage avec des chevaux, etc. Et donc, tout fonctionne comme ça. Tout le monde est un peu voleur sur les bords. Et donc, l'avidité de chacun permet donc qu'il y ait un cumul d'argent et que ce cumul d'argent ruisselle. C'est la première théorie du ruissellement.
Il utilise le mot ? Non.
C'est implicite. C'est parce qu'il dit, bon, celui qui a accumulé va devoir dépenser. Et embaucher d'autres. Alors, chez notre cher président, il récuse la théorie du ruissellement, mais il a mis une théorie qui est alternative, qui est celle des premiers de cordée. Par les premiers de cordée, le ruissellement, ça se passe d'en haut vers le bas. Les premiers de cordée, c'est ceux qui sont en haut, et ça ruisselle aussi vers le bas. Donc c'est quand même assez proche. Et voilà, la ruche est riche, parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Mais les gens sont hantés par la culpabilité des abeilles, des braves abeilles, les habitantes de la ruche sont hantées par la culpabilité. Un beau jour, disent, écoutez, on n'en peut plus, on se livre à notre avidité, à nos vices, etc. Et donc, on est vraiment tenaillé par... on a mal en nous-mêmes, on se sent coupable. Là, c'est le psy qui parle, donc à traiter la culpabilité. Grand thème, donc, du champ psychiatrique qui naît. Et donc, des habitants décident, bon, du jour au lendemain, on va devenir honnête. Plus de commissions, plus de petits coups, tout va être clean, clair et net. Et Mandeville raconte que c'est la deuxième partie de la fable, dès que cette décision est prise, la ruche se met à péricliter progressivement et finit dans le creux d'un arbre, toute rabougrie, toute seule, et devient la proie des autres ruches qui sont riches et qui n'ont pas opté donc pour l'honnêteté. Et il y a une conclusion extraordinaire qui dit, écoutez, abandonnez vos... chers soucis de rigueur morale, tout ceci ne peut amener qu'à la ruine. Et la morale, puisque nous sommes dans une fable, donc il y a une morale, une maxime, comme dans les fables de La Fontaine, dit tout en une phrase, les vices privés, avidité, vol, mensonge, rapine, etc., les vices privés font la vertu publique. La vertu publique, c'est la richesse publique. Voilà. Et donc, cessez de vous sentir coupable, c'est le conseil du psy, et allez-y, livrez-vous à fond à vos vices privés. Comme ça, vous allez sortir le monde qui était dans un état de pénurie généralisée, c'était la thèse de Hobbes peu de temps avant, hein, 50 ans avant. Vous allez sortir le monde de l'état de pénurie généralisée pour amener un état d'abondance. Et pour amener l'abondance sur Terre, eh ben, il faut se livrer à ses vices privés. Il y a une dimension théologique là-dedans. Dimension théologique. Parce que Mandeville dit quelque part dans d'autres textes, je connais bien ces textes, je vais en publier d'ailleurs d'autres bientôt, il y a une dimension théologique parce qu'il dit, bon, jusqu'à présent, on a misé sur les saints. Voilà. Il fallait donc être propre, il fallait donc faire preuve de retenue, il fallait être honnête, etc., etc. Et il dit ça, c'était le plan numéro un de Dieu. Le plan 1 de Dieu, le plan A de Dieu. Mais il y a un plan B. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé 80 ou 90% des gens comme vicieux, comme menteurs, comme voleurs, comme égoïstes pour rien? Eh bien non, il a créé ces gens pour qu'ils servent à quelque chose, c'est-à-dire à sortir le monde de la pénurie, ce que les saints ne font jamais, et donc amène un état d'abondance. Le seul prix à payer, c'est de se libérer de toute culpabilité. Alors, et on est au cœur de l'anthropologie libérale.
Alors, c'est évidemment, toute cette théorie amène plein de questions. Alors déjà, je pense que tous nos spectateurs colleront des visages et des pratiques contemporaines sur cette théorie du XVIIIe siècle. Hein, on peut appeler...
Pensez à notre Carlos Ghosn.
À qui ?
À notre Carlos Ghosn.
Voilà, alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à l'incarcération de Carlos Ghosn au Japon d'une manière tout à fait concomitante au mouvement des Gilets jaunes, pour ne pas avoir déclaré le... La totalité de ses revenus, les abus de position dominante, la spéculation, l'évasion fiscale, etc. Donc on peut coller toutes sortes de pratiques contemporaines. La transposition est immédiate. Elle est immédiate. Alors c'est une théorie totalement immorale, on est d'accord ?
Elle ne s'embarrasse plus d'aucune... C'est caduc. Ce qui est moral, on s'en fiche, c'est caduc. Voilà. Oubliez tout ça et pensez donc... à développer votre propre industrie selon votre penchant. Si votre penchant est vicieux, ben allez-y.
Mais alors, est-ce que c'est pour cette raison que Mandeville a totalement sombré dans l'oubli ? Parce que, je veux dire, on connaît, quand on parle de penseurs du libéralisme, si vous voulez, on pense à Adam Smith, qu'on enseigne dans les écoles, qu'on enseigne dans les universités, etc., et quelques autres. Oui. Mais alors, Mandeville, personne. Et c'est pour ça ?
Ben, en tout cas, c'est pour ça que je sors. Oui, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'il a sombré dans l'oubli. Pourquoi il a sombré dans l'oubli ?
Il a sombré dans l'oubli parce que il n'a pas sombré dans l'oubli pour tout le monde. Je vous disais qu'il était considéré comme le maître à penser par l'école de Chicago, qui dirige le monde depuis 30 ans maintenant, depuis les années 1980, et qui a raflé 90% des prix Nobel d'économie depuis 1980.
Mais il ne le revendique pas, personne ne le revendique.
Comment ça ? Il ne le revendique pas. Hayek le revendique, il a fait des conférences à l'Académie britannique qui ont été entendues par Margaret Thatcher, il était connu de Ronald Reagan... il était absolument connu de ces cercles de la mouvance libérale, et en même temps, il fallait complètement le dissimuler aux autres. C'est un auteur ésotérique qui fonctionne donc comme un maître à penser pour ces milieux de la mouvance libérale, et qui doit être absolument dissimulé pour le bon peuple.
– Alors comment ils ont pu à la fois le revendiquer et le dissimuler ? Ça, je ne comprends pas. Comment on fait pour à la fois revendiquer et dissimuler ?
Mais vous construisez des écoles de pensée où vous faites tout commencer par, justement, vous le mentionniez, Adam Smith. Et Bernard de Mandeville disparaît des radars, donc il n'existe pas. Oh oui, c'est un penseur annexe, etc. C'est pour ça que je le ressors. Je viens de sortir, donc en édition de poche, 5 textes majeurs de Mandeville, dont La fable des abeilles, avec une introduction de 100 pages pour montrer l'extraordinaire importance de Mandeville et l'importance qu'il a toujours maintenant dans la mouvance, néolibérale.
Alors, vous savez qu'en expliquant comme ça qu'il y a une théorie absolument immorale qui est à la base du fonctionnement du capitalisme et qui est connue seulement d'un tout petit nombre d'avertis, vous êtes quand même à deux doigts de la théorie des Illuminati. qui explique quand même qu'il y a une vérité ultime révélée que seul un tout petit nombre d'initiés ont le droit de connaître. On est quand même à deux doigts de ça.
– Alors écoutez, je veux bien que vous me créditiez de cette théorie, si vous créditez en même temps le chef de l'école de Chicago d'être lui aussi un Illuminati qui donc sacrifie à Mandeville en le présentant chez les dirigeants du monde entier dès les années 60 et qui produit beaucoup d'effets puisque c'est directement en fonction de cette théorie que se crée le courant néolibéral qui avec Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis vont changer le cours du monde. Au cœur de tout ça, donc, il y a Hayek, l'école de Chicago, et il y a donc le mastermind, le maître à penser de Friedrich Hayek. Donc, ce n'est pas moi qui suis un défenseur des Illuminati, c'est lui. Ils ont trouvé le grand théoricien. Moi, ce que je fais, c'est simplement le présenter, présenter sa théorie parce qu'elle est extrêmement mal connue. Je vous signale quand même qu'au XVIIIe siècle, quand ces théories ont été connues, elles ont été connues en France chez Rousseau, chez Voltaire. Voltaire s'est inspiré d'un certain nombre de textes de Mandeville. Sans le citer, ça commence déjà.
Déjà là.
Dans son traité de métaphysique de Voltaire, il sort entièrement de Mandeville. Et Mandeville a été refoulé une première fois parce qu'il a subi toute une série de procès qui se sont soldés par le fait que ses livres ont été brûlés. Alors, c'est le grand jury du Middlesex qui a condamné ses œuvres. En France, en 1745, quand ça a été traduit par Madame du Châtelet, la maîtresse de Voltaire en France, ça a été connu. Et quand on s'est aperçu de l'amoralité, de l'immoralité de l'œuvre de Mandeville, ses œuvres ont été mises à l'index et brûlées par le bourreau. Donc il n'en restait plus rien. Ça a continué de fonctionner, de circuler, donc chez des milieux avertis. Et le dernier temps du refoulement, ça a été avec les théories au début du XXe siècle de Max Weber sur la naissance du capitalisme, qui inverse complètement le capitalisme sort, c'est l'éthique protestante à l'esprit du capitalisme de Max Weber, 1919-1920, où il explique que le capitalisme sort du protestantisme qui se présente donc comme puritain, comme devant amasser de l'argent pour avoir des signes de reconnaissance de leur prédestination auprès de Dieu, mais qui en même temps, comme ils sont puritains, ne peuvent pas dépenser, et donc créent donc une accumulation. Et donc, si vous lisez Max Weber, Mandeville était très diffusé à l'époque de la formation de Max Weber dans les années 1880 en Allemagne. Il n'y a pas une seule mention dans toute l'œuvre de Max Weber de Mandeville, qui est pourtant été extrêmement connu.
Explication ?
Deuxième occultation de Mandeville. Et toute notre formation, nous, intellectuels du XXe siècle, a été sur donc ce qu'était le capitalisme et la naissance du capitalisme, vient de Max Weber, qui occultait Mandeville. Et donc là, il y a eu une occultation de Mandeville, donc je sors Mandeville, je viens de sortir 5 textes, je le répète, en édition de poche, okay. Je vais en sortir un autre.
Bon, alors, le chaînon manquant entre Macron et Mandeville, parce que quand même vous avez suivi Macron à la trace tout au long de sa vie, est-ce qu'on trouve une seule trace d'une influence de Mandeville chez Macron? Est-ce qu'il le cite une fois? Comme les autres, il l'aurait lu et se serait empressé de cacher le fait qu'il l'aurait lu
Écoutez, il est évident que Macron a lu l'école de Chicago, que ça soit Friedman, que ça soit...
Encore une fois, on ne sait pas.
Que ça soit
Friedman,
Hayek...
Attendez.
Non, c'est pas exactement ça. C'est pas qu'on manque de preuves. C'est qu'à partir du moment où... Bon, Macron est quelqu'un qui a une intelligence manifeste, supérieure même, qui a beaucoup travaillé, et donc pour exercer sa profession de banquier d'affaires, il a auparavant fait l'ENA, et il a été baigné dans les théories libéral et néolibéral, et évidemment celle qui est en vigueur depuis 1980, celle de Hayek et de Friedman. D'ailleurs, quand on l'interroge sur Thatcher, il dit « Vous ne savez pas la chance que les Anglais ont eu d'avoir Thatcher ». Bon. Et donc, Dans le lot, qu'il reçoit de Hayek, il y a le mastermind de Hayek, et il est là. Donc, on ne peut pas le rater.
Non, mais ce qui est sûr,
c'est notre méconnaissance maintenant.
Ce qui est sûr, c'est que ça colle. C'est pour ça que votre livre est très séduisant, parce que tout colle, même si on n'a de preuve de rien, si vous voulez, même si on n'a pas le smoking gun.
C'est pour ça qu'il faut reconstituer, mais c'est ça la pensée. C'est d'essayer de reconstituer les chaînons manquants et de reconstituer tout ça. Et donc, quand on reconstitue ça, on dit « Mais attendez, là, je pige un truc, là. » Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, quand j'ai commencé à reconstituer tout ça, je me suis dit, attendez, là, je me suis dit tout seul, attends, je suis en train de trouver un truc là extrêmement important qu'il faut que je publie, que je montre, que je dévoile et que donc je publie tous les textes, non seulement ce texte-là, mais tous ceux qui vont avec, notamment sur celui qui a été publié il y a même pas un an maintenant sur Mandeville. Il y a 500 pages de textes de Mandeville décortiqués là-dedans. Voilà. Hein.
Ceux que votre livre mettra en appétit, ils auront de quoi satisfaire cet appétit. Encore un truc qui colle, c'est la flatterie, justement. Puisque la flatterie, on parlait au début de cette émission du problème de Macron qui n'a pas réussi à doser la stigmatisation et la flatterie. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Mais la flatterie, c'est chez Mandeville.
Bien sûr. Alors, la flatterie.
Alors, juste, pardon, avant que vous commenciez sur la flatterie, je voudrais qu'on puisse entendre ce que peut donner la flatterie par Emmanuel Macron. Oui. C'était avec Jean-Pierre Pernaut.
J'ai demandé un effort aux personnes retraitées, et une partie d'entre elles, aux 60% qui payent la CSG au taux normal. Bon, je veux m'expliquer, mais d'abord je veux dire une chose. Je leur dis merci. Je leur dis merci et je veux leur expliquer pourquoi je leur ai demandé cet effort. Je veux l'expliquer d'abord à tous nos retraités. D'abord, je leur dis, il n'y a pas de souverain mépris, moi j'ai besoin de vous. Donc, en effet, j'ai fait appel à vous. Et je vous en remercie, mais je veux quand même vous expliquer quel est notre système. Je lui demande un effort. Je le sais, je l'en remercie. Je ne vais pas mentir, de toute façon, je vous ai demandé un effort. Donc, je vous en remercie. Oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité. Je ne les ai pas pris en traite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération. Je l'ai dit en les remerciant.
Voilà, là il y a un message qui est clairement un message. Alors la flatterie.
Alors la flatterie, c'est un autre texte de Mandeville dont on n'a pas de traduction depuis 1740 et qui s'appelle Les origines de la vertu morale. C'est un texte complètement sidérant, complètement extraordinaire. Que je vais donc prochainement republier et commenter parce que. Là-dedans, il expose donc son art de gouverner, justement, pour ménager l'appropriation privée, parce que l'appropriation privée est ce qui accumule de plus, donc sont ceux qui vont nous sortir le monde de la pénurie. Et donc, il dit, voilà, les hommes... Il y a une théorie anthropologique. Les hommes sont globalement égoïstes. Quand vous essayez de les convaincre de se réfréner, ils veulent bien vous écouter, mais ils n'en font rien du tout. Bon, donc le seul moyen de pouvoir les tenir, c'est-à-dire les tenir en société, sans qu'ils se reviennent à Hobbes, c'est-à-dire la guerre de chacun contre chacun, c'est de se distribuer pour les dirigeants des flatteries et leur dire « Vous êtes formidable, vous êtes vertueux, je vous remercie, vous avez donné quelque chose, pour le bien commun, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, etc. etc. » Et Mandeville dit « Voilà, il n'y a que ça qui peut tenir les individus tranquilles dans une société, c'est de distribuer des flatteries. » En même temps.
– Davantage que les avantages matériels, par exemple.
Oui, – ah oui, bien sûr. Non, il dit « S'il fallait, normalement, pour que les gens tiennent tranquilles, il faudrait les payer. Mais on n'a pas d'argent pour les payer tous. Donc il faut les tenir avec quelque chose qui ne coûte rien. Et quelque chose qui coûte rien, c'est du vlan, du vent, du blabla, des paroles et des flatteries. Parce que les flatteries, vous pouvez distribuer, ça ne coûte rien. Mais il y en a qui les entendent et du coup, ils se croient vertueux. Donc ils se tiennent tranquilles, ils sont travailleurs, ils contribuent au bien de la nation, on leur pique quelque chose sur leur retraite, mais peu importe, ça participe au bien commun, etc. Alors ça, c'est le premier temps. Donc composer une vaste classe de gens tenus par la flatterie et qui se croient vertueux. C'est un psy, hein. Ils se croient ce qu'ils ne sont pas. Il y a un inconscient là-dedans, ce qu'ils ne sont pas, mais ils se croient vertueux. Et donc, le deuxième temps, c'est de désigner une petite classe, de gens qui ne sont pas vertueux et qui vont être donc des classes dangereuses. Alors ceux-là, il faut les stigmatiser, des fainéants, des cyniques, etc. C'est une petite classe. Bon. Et donc c'est la politique que Macron a appliquée. Vous avez donné un exemple tout de suite. Et en même temps, il a stigmatisé donc une classe de gens qui ne sont pas vertueux.
Mais il a mal dosé, on le disait au début. Voilà.
Problème de dosage. Ouais. C'est qu'il s'est complètement planté dans le dosage. Il a complètement stigmatisé ceux qui étaient vertueux et ceux qu'il aurait dû stigmatiser. Et il les a encensés. Donc, un mauvais élève. Il a appliqué, mais un peu trop vite, parce que c'est un garçon un peu pressé. Et donc, il a été beaucoup trop vite dans l'application des théories de Mandeville. Mais c'est pas tout dans Mandeville, parce que dans ce texte-là sur les origines de la vertu morale, Mandeville explique que bon, ça, ce sont deux classes imaginaires créées par les dirigeants. Donc une vaste classe de vertueux qui se traîne tranquille, et en regard des dangereux, des classes dangereuses, etc., etc. Il dit tout ça ne se met en place que pour qu'une troisième classe, nous. Alors Mandeville dit « the worst of them », les pires d'entre les hommes, puissions simuler la vertu et dissimuler nos penchants d'avidité. Et il dit, c'est cette classe-là, cette petite classe, donc, à qui il revient d'administrer l'ensemble de la société pour profiter, donc, de l'effet de vertu créée et de l'effet de stigmatisation, pour amasser, de façon à ce que cet amas soit ensuite redistribué de proche en proche, pour les bienfaits de la société.
Et on retrouve les, alors je ne sais pas si on dit les 1% ou les, voilà.
Ou les
0,1%.
Ou les 0,1%. Et donc, les... il désigne une petite classe qui est la classe worst of them, ça veut dire les pires d'entre les hommes. Ce sont qu'on appellerait aujourd'hui des pervers manipulateurs. Et c'est ce qu'il apparaît aujourd'hui. Il apparaît comme un manipulateur, donc qui a utilisé les histoires qu'il a apprises à la banque Rothschild, etc., etc., pour manipuler les gens. Mais il a été donc assez malhabile, maladroit. Il aurait pu être adroit, il aurait pu être semi-habile. Il a été très maladroit, justement dans le dosage des maximes mandeviliennes de la flatterie et du blâme.
Alors je voudrais qu'on termine par le... Vous avez prononcé le mot d'égoïsme. Et c'est vrai que toute votre œuvre semble légèrement obsédée par cette notion d'égoïsme. Oui. Je voudrais, pour terminer, vous poser une question sur le mouvement actuel. Est-ce que vous avez le sentiment que cet égoïsme aujourd'hui gouverne seulement, on va dire, cette troisième classe, les 1%, les 0,1%, l'élite, ou est-ce que cet égoïsme est un moteur plus universel? Et par exemple, est-ce que vous avez l'impression que cet égoïsme gouverne aussi le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des revendications actuelles, cette revendication des classes populaires ou des petites classes moyennes, j'en sais rien. Est-ce que c'est seulement les très riches ou est-ce que c'est tout le monde qui est mu par l'égoïsme?
Oui. Alors, le souhait de cette troisième classe, c'est que l'égoïsme devienne le moteur universel. Le moteur universel, parce que ça mettrait en place donc une concurrence entre les entreprises, entre les individus, entre les institutions, concurrence qui permettrait donc à ce que ceux qui ont été les plus forts, les plus égoïstes, qui ont défendu le mieux leur visée, soit au poste de commande.
Mais c'est leur donc souhait, ça, c'est leur la. Souhait, mais ils y sont arrivés ou pas?
Ben justement, non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent justement dans ce peuple de gilets jaunes des éléments qui sont des éléments d'altruisme, le souci du bien commun, un souci d'égalité en France, un souci de répartition au niveau de la fiscalité qui fait qu'on ne peut pas simplement donner aux 1% ou aux 0,1% et eux les prélever. Donc ils restent... dans ce peuple-là, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va être complètement détourné. Ça, je ne jure de rien de ce qui peut arriver. Mais en tout cas, il apparaît donc un sentiment altruiste qui a été longtemps soutenu donc en France par justement ces institutions de services publics, par le souci du bien public qui a été soutenu donc par de la répartition, part de la protection sociale, etc., etc. Qui fait que, par exemple, la France n'est pas les États-Unis, parce que si vous êtes aux États-Unis, vous ne devez penser qu'à vous pour payer l'éducation de vos enfants, 100 000 dollars par an si vous les envoyez à l'université, 1 000 dollars pour votre protection sociale, votre retraite, etc. Ici, il y a un service public qui, en principe, s'occupe de ceci. Or, c'est ça qu'il faut casser, parce que ça ne rapporte pas assez. Ça ne rapporte pas assez parce que donc l'idée de cette troisième classe, c'est qu'eux gouvernent par ce qu'ils appellent les nombres. C'est-à-dire qu'il faut les nombres les plus performants, ce qui ramène donc de la performance, partout de la performance. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas performant, il faut le casser. Or, ce que ce bon peuple est en train de voir, je ne sais pas s'il va rester longtemps bon, ce peuple, ça peut très très mal tourner et même très très mal se finir, mais ce que ce peuple est en train de voir, c'est que ce gouvernement par les noms est en train de détruire le gouvernement par les lois, le gouvernement par les lois de la République. La République est hantée sur ce triptyque liberté, égalité, fraternité. Donc, soit on fait un gouvernement par les lois qui maintiennent ces trois principes-là, soit un gouvernement par les nombres qui détruit donc, en premier chef, le principe d'égalité. Et ça, le peuple se cabre. Il est en train de réagir. On ne sait pas où ça va aller, mais en tout cas, quelque chose est parti.
Merci, Desmostène.
Merci, cher Daniel Schellermann. Merci aussi pour votre travail. Donc.
Je rappelle donc le Code Jupiter. C'est un petit livre qui se lit vraiment très, très facilement. C'est très, très accessible pour le livre d'un philosophe. Merci. Vous avez fait très fort. Alors, je n'en dirais pas forcément autant des 500 pages de Mondeville que vous nous prédisez. Chacun verra. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.